Vous écoutez, on lit pour vous.
La vérité sur cette virée qui a mal viré. Un texte de Boucard Diouf, paru le 16 mai 2026 dans La Presse. L'éclosion de cette maladie à hantavirus sur le MV Ondius, qui a fait les manchettes, cache un message important. Je ne parle pas seulement des frissons qui ont traversé une partie de l'humanité encore traumatisée par la pandémie de COVID-19. Le message en question se trouve ailleurs. Je m'explique. De grands médias internationaux racontent que la contamination se serait produite pendant une excursion d'observation d'oiseaux dans un dépotoir argentin. Le passager identifié comme le patient zéro aurait ramené le virus d'une escapade ornithologique sur ses déchets où on peut observer des espèces rares, dont le caracara huppé et le caracara de Darwin, qui sont des oiseaux de la famille des falconidés. Les dépotoirs étant des lieux de prédilection des rongeurs, réservoirs naturels de ce type de virus, au moins un croisiériste aurait inhalé de la poussière contaminée par l'urine, les excréments ou la salive d'une bestiole porteuse du pathogène. C'est ainsi, croit-on, qu'aurait débuté cette saga. Cela dit, je ne parierais pas mon bungalow sur cette conclusion rapidement tirée, car la pandémie de COVID-19 nous a enseigné que même face à ce qu'on nous présente comme des certitudes, il est sage de se méfier sans tomber dans le complotisme. Chose certaine, dans un monde en bonne santé, des gens ne devraient pas sortir d'une croisière pour aller observer des oiseaux rares dans un dépotoir. Si ces falconidés se nourrissent désormais dans cette décharge, c'est parce que leur habitat naturel est en décrépitude. Là se trouve le message caché de cette histoire qui devrait nous préoccuper bien plus. Pour cause, en octobre 2020, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, IPBES, nous a fait des prédictions qui donnent froid dans le dos. Cette organisation, fondée en 2012 et décrite parfois comme le GIEC de la biodiversité, réseaute des milliers de chercheurs qui travaillent sur la protection de la biodiversité et les services écosystémiques. On parle ici de tous les services essentiels que la nature rend gratuitement à l'humanité. Pensez à la pollinisation, la purification de l'air que nous respirons et de l'eau que nous consommons, la protection contre les inondations, le stockage du carbone, ainsi que les médicaments, les matériaux et la nourriture que nous tirons directement de la nature, etc. La santé de la biodiversité aussi est un service écosystémique, car il sert de rempart contre une quantité astronomique de virus potentiellement dangereux qui sont tapis dans le vivant. Quelques chiffres pour donner un ordre de grandeur. L'IPBES avait évalué en 2020 qu'il resterait au moins 1,7 million de virus inconnus chez les mammifères et les oiseaux. De ce nombre, entre 540 000 et 850 000 auraient un potentiel pathogénique pour l'espèce humaine. Pour mettre une image sur cette immensité, je rappelle que sur les près de 17 000 virus connus de l'humanité, les taxonomistes en dénombrent un peu moins de 300, qui provoquent chez nous des maladies. Si l'on se fait déjà sévèrement malmener par cette infinitésimale partie du gigantesque monde viral, imaginez ce qu'on risque de trouver dans les 850 000 autres. Gageons que la probabilité d'y croiser des monstres plus dangereux que les agents responsables de la COVID-19, de l'Ebola ou du sida est très élevée. Or, plus on détruit l'environnement et massacre le vivant, plus la probabilité de faire une telle rencontre augmente. La crise écologique, de plus en plus dramatique, nous mène donc droit vers de grandes turbulences sanitaires jalonnées de nouvelles maladies zoonotiques, maladies transmises de l'animal à l'homme. Derrière ces prévisions très pessimistes qui font consensus, il y a une hypothèse appelée la perte de l'effet de dilution. Je résume. La grande majorité de ces centaines de milliers de virus potentiellement dangereux pour nous vivent bien loin de l'humanité, en équilibre avec leurs hôtes naturels, sans vraiment provoquer chez eux de maladies. Dans les écosystèmes où la biodiversité est en bonne santé, les virus se perdent dans de nombreuses espèces qui sont très majoritairement de mauvais hôtes qui ne les transmettent pas ou les transmettent inefficacement. Cette dispersion salvatrice est assimilée à une dilution. A contrario, quand la biodiversité est érodée, les virus ont plus de chances de rencontrer les meilleurs animaux porteurs, réservoirs, pour les accueillir, les multiplier et les transmettre à d'autres espèces, y compris la nôtre. Les rongeurs font partie de ces animaux résilients qui peuvent devenir des véhicules viraux de prédilection lorsque la diversité animale s'effondre. La déforestation et la perte d'habitat provoquent aussi un rapprochement entre l'humain et des espèces qui, autrement, n'auraient jamais été en contact étroit avec nous. Le dépotoir, où des touristes de la croisière sont allés observer des oiseaux rares, est un exemple parfait de cette promiscuité géographique induite par la dégradation de l'environnement. Sans entrer dans les détails scientifiques ou égrener l'ensemble des facteurs impliqués dans ces liens de causalité entre crise écologique et menaces microbiennes, disons simplement qu'une biodiversité saine nous éloigne et nous protège des menaces virales. De ce fait, le message le plus important qu'on gagnerait à décrypter dans cette histoire de croisière est le suivant. La seule façon d'éviter que les drames comme celui qui s'est passé dans ce bateau se multiplient, c'est de revenir au concept de santé globale. Autrement dit, de se rappeler en tout temps que la santé humaine est indissociable de la santé animale et environnementale. On estime que le taux d'extinction des espèces est aujourd'hui de 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel. Alors, s'il est vrai qu'on ne peut massacrer la biodiversité sans récolter des virus, l'humanité s'approche à grande vitesse de ce temps des moissons qu'on devrait redouter. C'était la vérité sur cette virée qui a mal viré. Un texte de Boucard Diouf paru le 16 mai 2026 dans La Presse.
Thank you. Quand la santé animale éclaire la médecine humaine. Un texte de Catherine Anfield, paru le 7 mai 2026 dans la presse. Et si les truites nous apprenaient que la dépression est une adaptation pour la survie? Et si les girafes détenaient une clé génétique pour la santé du cœur? Entrevue avec la passionnante scientifique Barbara Natterson-Horowitz, qui était de passage au Québec en avril 2026. C'est en 2005 que Barbara Natterson-Horowitz a reçu un coup de fil qui allait changer le cours de sa carrière. La docteure Natterson-Horowitz est cardiologue. Et au téléphone, c'était un représentant du zoo de Los Angeles qui lui demandait de l'aide pour faire des tests sur les grands singes. En captivité, ceux-ci ont tendance à développer des maladies cardiovasculaires. Au zoo, la docteure Natterson-Horowitz a été frappée par une évidence. Les animaux et les humains partagent beaucoup de vulnérabilités en matière de santé, tant physique que psychologique. Pourquoi ne l'avait-elle pas appris dans ses études en médecine? Et pourquoi tant de ressemblances? Avant de se tourner vers la médecine, Barbara Natterson-Horowitz avait étudié la biologie de l'évolution. Voilà que ses premières amours revenaient à l'avant-scène. Et ce fut le début d'un chapitre inattendu dans ma vie professionnelle, a raconté à la presse la docteure Natterson-Horowitz au lendemain d'une conférence à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Co-autrice du livre « Zoo Be Quiet » 2012, Barbara Natterson-Horowitz se bat contre cette idée selon laquelle l'être humain est une exception en médecine. L'anthropocentrisme est selon elle un bandeau scientifique qui nuit aux avancées. Il existe un vaste univers de connaissances et d'idées sur la santé humaine qui peuvent être acquises auprès des animaux, assure la docteure Natterson-Horowitz, qui travaille à l'Université Harvard et à l'Université de Californie à Los Angeles. À commencer par ceux qui partagent notre environnement, nos chiens à la maison, les écureuils et les ratons laveurs dans la cour. Si, par exemple, il y a une toxine dans l'environnement qui contribue au cancer du sein chez la femme, d'autres femelles mammifères du milieu vont vraisemblablement en souffrir. Mais nous ne portons aucune attention à cette réalité. Des solutions. Des réponses pourraient se trouver dans la biologie même des autres espèces. Depuis l'apparition des premières formes de vie sur Terre, il y a 4 milliards d'années, les espèces évoluent en s'adaptant à leur environnement. La Terre, rappelle Barbara Natterson-Horowitz, accueille des millions d'espèces. Il se peut que la nature ait déjà apporté les réponses à des problèmes médicaux que nous n'arrivons pas à résoudre, résume la scientifique qui pense aux éléphants d'Afrique, très résistants au cancer. Elle donne aussi l'exemple de la girafe, qui a vraisemblablement évolué ainsi parce qu'un long cou lui confère des avantages en matière de survie, un plus grand accès à la végétation et un meilleur point de vue sur les prédateurs. Or, ce long cou vient avec un désavantage. Le cœur doit pomper le sang bien fort pour lui permettre d'atteindre le cerveau. La girafe a d'ailleurs la pression sanguine la plus élevée de tous les animaux et le muscle de son cœur est très épais. Chez l'humain, un muscle cardiaque fibreux, souvent associé à la haute pression, est un signe de maladie, souligne la cardiologue. Mais la girafe, elle, peut fuir un prédateur en galopant à 40 km/h. La docteure Natterson-Horowitz s'est donc posé une question. Existe-t-il une solution qui a évolué chez la girafe pour résoudre ce problème? En comparant le génome de la girafe à celui de l'okapi, une espèce sœur ayant un cou beaucoup plus court, les chercheurs ont identifié des mutations dans un gène lié à la haute pression. Une équipe de chercheurs chinois a injecté ce gène à des souris et celles-ci ont développé une résistance exceptionnelle à la haute pression. Cette étude doit être reproduite, mais le potentiel de cette nouvelle direction de recherche est tellement excitant, se réjouit la scientifique. Barbara Natterson-Horowitz est impliquée dans un autre projet singulier, mieux comprendre la dépression humaine en comprenant mieux les comportements de type dépressif chez les poissons. Le biologiste norvégien Marco Vindas a publié en 2019 les résultats d'une étude éclairante. Il a placé dans le même bocal des duos de truites arc-en-ciel, une petite et une plus grosse. C'était une manière de faire subir aux petites truites des défaites sociales, aussi associées à la dépression chez l'humain. Après une dizaine de jours, la petite truite avait des comportements de type dépressif, prostrée dans un coin, sans appétit, changement de couleur. Les chercheurs ont ensuite donné un antidépresseur, de la kétamine, à la truite subordonnée qui a soudainement retrouvé son entrain. Et que s'est-il passé? La grosse truite a violemment attaqué la petite pour la tuer, résume la docteure Natterson Horowitz. Ce que cela signifie, c'est que la dépression a évolué pour être un refuge temporaire, estime-t-elle. Si la biologie de la dépression a été léguée d'une génération à l'autre, c'est nécessairement parce que les animaux qui en ont souffert s'en sont sortis et ont fait des bébés. Une hypothèse qui, selon elle, contribue à dissiper le flou et la stigmatisation entourant la dépression. Et ces découvertes ne sont que le début, promet-elle. C'était « Quand la santé animale éclaire la médecine humaine », un texte de Catherine Enfield paru le 7 mai 2026 dans la presse.
Les centres de tri en pleine modernisation. Un texte de Martine Le Tarte paru le 12 mai 2026 dans la presse. Des ensembles d'équipements composés notamment de trieurs optiques intelligents pour des centres de tri presque tout automatisés. Voilà ce qu'amène sur le marché Machinex, dont le siège social est à Plessisville. Récemment, l'entreprise de presque 600 employés a équipé les centres de tri de Saint-Hubert et de Montréal-Est de Matrec, une société de GFL Environnemental. Elle est aussi en train de moderniser ceux de Tricentris, la coop à la Chute, Gatineau et Terrebonne. Ces investissements ont été faits dans la foulée de l'adoption du système modernisé de responsabilité élargie des producteurs, REP, entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Les entreprises doivent maintenant financer et gérer la fin de vie des contenants, emballages et imprimés qu'ils mettent en marché dans la province. Éco-Entreprise Québec a été mandatée pour réaliser ce travail. En prenant en charge la gestion de la collecte sélective, Éco-Entreprise Québec exige que les centres de tri atteignent un certain niveau de qualité, donc ils se renouvellent, explique Pierre Paré, président directeur général de Machinex. S'attaquer aux matériaux de construction. Pour investir, les centres de tri ont besoin de prévisibilité. On est capable d'auto-financer les projets dans la mesure où on a une garantie de gisement, donc de matière résiduelle, et des contrats assez longs pour que les investissements puissent être rentabilisés, explique Kevin Morin, directeur général du Conseil des entreprises en technologie environnementale du Québec, CETEQ. Il remarque que plusieurs autres changements réglementaires pourraient faire une grosse différence. Ça coûte environ 100 $ la tonne, dit-il, pour envoyer les matériaux de construction, rénovation et démolition, CRD, à l'enfouissement, comparativement à environ 150 $ pour les envoyer au centre de tri. Plusieurs optent pour le moins cher. Il y a donc 1,6 million de tonnes de matériaux de CRD qui vont à l'élimination chaque année. Pour favoriser la filière du recyclage, le CETEQ demande donc au gouvernement d'ajouter une redevance pour les matériaux de CRD afin que l'enfouissement coûte aussi 150 $ la tonne. La redevance pourrait servir à financer la recherche de débouchés. Il y en a déjà qui se fait, mais dans le contexte actuel où il n'y a pas de garantie de gisement, c'est difficile d'investir, explique Kevin Morin. Il y a donc peu d'investissements en recherche, peu de matière qui entre et souvent ce qui sort n'est pas de qualité suffisante pour les acheteurs. Il faut changer ça. Avec cette hausse de la redevance pour l'enfouissement des matériaux de CRD, des projets de modernisation et de construction de centres de tri verraient le jour un peu partout au Québec. Obliger la valorisation de la matière organique pour les organisations. Parmi les autres changements réglementaires qui pourraient faire une grosse différence sur le plan environnemental au Québec, et pour les entreprises dans le domaine, le directeur général du CETEC mentionne l'obligation de valoriser la matière organique pour les institutions, commerces et industries. Le gouvernement du Québec s'est d'ailleurs engagé à agir dans le domaine des matières compostables et de CRD dans sa stratégie de valorisation de la matière organique publiée en 2020, précise-t-il. Si le gouvernement faisait bien ses calculs, il verrait que l'inaction en environnement coûte beaucoup plus cher lorsqu'on regarde tous les dommages causés que l'action, qui est en fait un investissement, indique de son côté Grégory Pratt, vulgarisateur en environnement. Il souligne d'ailleurs qu'il y a plusieurs entreprises vraiment intéressantes au Québec en économie verte. Mais le gouvernement, qui est pourtant le plus gros donneur d'ouvrages, ne les soutient pas beaucoup, affirme-t-il. La règle du plus bas soumissionnaire leur nuit beaucoup. L'environnement devrait toujours être un critère dans l'attribution de contrats, affirme Grégory Pratt. Il faut vraiment que ça devienne une priorité et pour ça, ça prend une vision. Exporter son expertise. Pour réussir, considérant le petit marché québécois, les entreprises du secteur de l'économie verte doivent souvent compter sur l'exportation. Machinex a commencé à développer le marché américain, aujourd'hui son plus gros, en 1990 et elle y a ouvert un bureau en 1996. L'entreprise a notamment fourni l'équipement pour le Rumpke Recycling and Resource Center à Columbus, en Ohio, qui a reçu l'an dernier le prix de l'installation de recyclage de l'année de la National Waste and Recycling Association. Dans ce centre, il n'y a pas de trieur manuel pour les plastiques. Même le contrôle qualité est automatisé grâce à des trieurs optiques, indique Anne-Marie Paré, directrice marketing et affaires corporatives chez Machinex. L'entreprise est aussi présente en Australie et au Royaume-Uni, où elle a réalisé, à la suite d'un appel d'offres mondial, le centre de tri de Coventry, mis en service en 2023, qui est le plus automatisé dans le pays. Ce projet nous a permis de positionner Machinex comme l'un des plus grands joueurs dans son secteur, affirme Pierre Paré. Comme nous avons développé une bonne base de clients dans différents pays, nous avons toujours des projets qui roulent. C'était les centres de tri en pleine modernisation. Un texte de Martine Letarte paru le 12 mai 2026 dans la presse.
Banque de la Défense, Toronto attaque le caractère francophone de Montréal pour attirer l'institution. Un texte de Guillaume Saint-Pierre paru le 14 mai 2026 sur TVA Nouvelles. Ottawa. La ville de Toronto a choisi une bien curieuse stratégie pour attirer la Banque de la Défense, attaquer le caractère francophone de Montréal. Les deux villes sont en compétition pour attirer cette future institution censée regrouper plusieurs pays alliés de l'OTAN et visant à financer des projets de défense. Dans un cahier de candidature mis en ligne cette semaine, Toronto jette les gants en faisant peu subtilement allusion à un troisième référendum et aux lois linguistiques québécoises. L'environnement d'affaires anglophone de Toronto réduit les frictions opérationnelles pour une institution financière mondiale, lit-on dans une section où on oppose carrément les deux villes. On y ajoute que Toronto jouit d'une stabilité politique sans égale, où règne une simplicité linguistique et opérationnelle, ainsi qu'un environnement réglementaire hautement prévisible, sans exigence de conformité linguistique ou culturelle. Le National Post a été le premier à rapporter cette nouvelle offensive ontarienne. Il semble que les gens derrière la candidature torontoise vivent dans une bulle. Même sur le plan stratégique, miser sur l'unilinguisme de Toronto et réduire le français à une friction opérationnelle constitue des choix discutables. Mark Carney, qui prendra l'ultime décision, sera-t-il sensible à cet argument? Il s'agit ici d'une future institution multilatérale dont la plupart des membres seront originaires d'Europe, où le plurilinguisme est la norme plutôt que l'exception. La Banque de la Défense, de la Sécurité et de la Résilience sera soutenue par le Canada et l'OTAN, dont les deux langues officielles sont l'anglais et le français. En effet, l'OTAN et le Canada possèdent les deux mêmes langues officielles. La candidature de Montréal mise justement sur le fait que sa population est la plus trilingue au pays à 24 %. Pour une institution majoritairement composée de pays européens et de membres de l'OTAN, le français est un atout considérable, affirme le ministre responsable de la candidature de Montréal, Christopher Skeet. Cette semaine, Doug Ford a juré qu'il n'avait pas l'intention d'attaquer les autres candidatures. « Les Montréalais et les Québécois sont des gens bien », a-t-il lancé en point de presse mardi. Selon la presse, l'Ontario utilise en coulisses l'argument de la souveraineté du Québec pour attirer chez elle la Banque de la Défense. Ce n'est pas la première fois que Doug Ford fait des mamours au Québec tout en essayant par derrière de miner sa crédibilité. L'an dernier, il a ouvertement courtisé les médecins québécois aux grandes dames de François Legault. C'était Banque de la Défense. Toronto attaque le caractère francophone de Montréal pour attirer l'institution. Un texte de Guillaume Saint-Pierre paru le 14 mai 2026 sur TVA Nouvelles.